Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Un quart de l'enveloppe consacrée à la culture ira au spectacle vivant, un secteur qu'il faut aider en pleine crise sanitaire. Le gouvernement en convient et donne des gages aux professionnels. Ils sont plutôt satisfaits, vous l'entendrez. À l'heure où les Parisiens et toute une partie des Franciliens doivent sortir masqués tout à l'heure à partir de 8h, nous nous sommes intéressés aux conditions de reprise dans les universités. Le protocole a été esquissé hier, compte rendu dans ce journal. Nous irons aussi en Afrique du Sud où des affrontements ont éclaté ces deux derniers jours près de Johannesburg. La police est accusée de s'en prendre à la communauté métisse. Un adolescent y est mort mercredi. Nous serons sur place. Et puis nous analyserons la stratégie du président turc Erdogan qui poursuit ses recherches gazières en mer Méditerranée orientale au grand dam de la Grèce, soutenue par une partie de l'Union européenne. L'activité partielle est prolongée pour les professionnels du spectacle jusqu'à la fin de l'année. Le Premier ministre Jean Castex l'annonçait hier aux professionnels. Au ministère de la Culture, rue de Valois, il a détaillé l'enveloppe qui leur sera allouée. 2 milliards d'euros pour la culture au total, dont 432 millions, près d'un quart pour le spectacle vivant. Parmi ces fonds débloqués, 10 millions d'euros seront consacrés à la relance pour les théâtres privés. De quoi soulager Loïc Bonnet, le directeur du théâtre à l'Ouest, à Rouen. Il préside aussi l'Association des théâtres privés en région.
Forcément, quand on nous annonce que le fonds d'urgence est abondé de 10 millions supplémentaires, oui, c'est très bien, puisque aujourd'hui, on a des lieux qui vont fermer, hein, très clairement, si on ne les aide pas très vite. Il y a des lieux, il faut bien s'en rendre compte, il y a des lieux qui, depuis fin mai, n'ont pas touché d'argent. Rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de trésorerie ou très peu, ils sont en négatif sur leur compte en banque et ils doivent leur loyer et tout ce qui va avec. Et le retour du public est très compliqué, on va pas se mentir. C'est pas parce qu'on nous donne 100% de notre jauge dans les zones vertes, hein, qu'on va avoir 100% de notre jauge remplie comme ça d'un coup. Et on a demandé, et Madame la Ministre nous a assuré qu'elle allait soutenir et aider à ce que les gens reviennent. En fait, c'est qu'une question de confiance aujourd'hui. De tous ceux qui ont rouvert, il n'y a pas eu de cluster dans nos lieux. Et pourtant, on portait pas de masque. Alors si en plus on rajoute le masque, c'est encore plus sécure de venir au théâtre.
C'était Loïc Bonnel, le directeur du théâtre à l'Ouest à Rouen, qui veut y croire, interrogé rue de Valois hier par Thomas Larabie. Ce secteur-là a aussi été très affaibli par la crise sanitaire. La presse écrite va bénéficier de 483 millions d'euros sur 2 ans. Une partie de cette enveloppe a déjà été votée. L'État veut notamment accompagner les transitions écologiques et numériques de ce secteur. Et la crise n'est pas finie. Sur le plan sanitaire, maintenant, le virus gagne du terrain, nous vous le disons de jour en jour. 21 départements sont désormais en zone rouge, donnant plus de pouvoir aux préfets de ces départements. À Paris et en Petite Couronne, notez aussi que le port du masque va devenir obligatoire à partir de ce matin, 8h. Le gouvernement dit vouloir tout faire pour éviter un reconfinement généralisé, dévastateur pour l'économie. Ces dernières 24 heures en France, plus de 6000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés. C'est un nouveau record depuis le printemps. Dans ce contexte difficile, la rentrée se prépare avec des consignes au compte-gouttes. Rien encore ou presque pour les crèches et pour les maternelles. Un masque obligatoire, vous le savez, au collège et au lycée, même dans la cour de récréation. Et puis pour les étudiants, dont les premières rentrées auront lieu la semaine prochaine, ce sera aussi masque obligatoire pour tous. La conférence des présidents d'université s'exprimait justement sur le sujet hier, précisant tous les autres aménagements à l'université. Marie Maheu.
Le masque est obligatoire, oui, mais les autres aménagements à l'université sont nombreux. Marquage au sol pour définir un sens de circulation, une place sur deux laissée vide dans les salles quand c'est possible, des horaires de cours décalés. Tout est fait pour éviter le brassage d'un trop grand nombre d'étudiants. Côté cours, la partie à distance reste à l'appréciation des universités et surtout des professeurs en fonction de leur matière et de la taille de leur salle, sauf évidemment pour les élèves souffrant de pathologies qui les rendent particulièrement vulnérables au virus. Un protocole sanitaire et une réorganisation de la vie à l'université qui pèsent sur son budget. Il représente généralement 1 à 2% de son budget total. Quelques millions d'euros, par exemple, pour l'université de Reims. Première dépense à l'achat, le matériel informatique pour enregistrer les cours à distance. Sur le long terme, c'est aussi le nettoyage renforcé des locaux, mais aussi l'achat de gel et de masques qui va peser sur les dépenses des universités.
Il promet de terrasser le Covid-19, ce sont ses mots, avec un vaccin trouvé cette année. Vaste promesse du président Donald Trump cette nuit, qui a officiellement accepté l'investiture de son parti républicain. En clôture de la convention nationale, il s'est présenté comme un rempart face au démocrate Joe Biden, qu'il qualifie de fossoyeur de la grandeur de l'Amérique. Personne ne sera en sécurité dans l'Amérique de Biden, voilà ce qu'a lancé Donald Trump cette nuit, dans un contexte toutefois de superposition de crises et de tensions raciale aux États-Unis. Car effectivement, la colère antiraciste gronde toujours dans le pays. Les blessures infligées à l'afro-américain Jacob Blake dimanche dernier par un policier blanc ont rallumé les braises. Dans l'après-midi aujourd'hui, une grande marche est prévue à Washington en l'honneur de Jacob Blake et contre toutes les violences policières. Des violences contre une communauté, c'est aussi ce qui pousse dans la rue des habitants en Afrique du Sud, près de Johannesburg. Manifestation violente dans le township métis d'Eldorado Park. Au moins 3 policiers et plusieurs manifestants ont été blessés depuis mercredi. La colère a en fait éclaté après la mort d'un adolescent de 16 ans atteint de trisomie 21, supposément tué par les forces de l'ordre lors d'une patrouille. Les habitants de ce township ont attaqué un poste de police pour protester. Claire Bargelès nous raconte.
La route principale est bloquée par des restes de pneus brûlés. Toute la journée, les jets de pierre ont fait face aux balles en caoutchouc. Madi Tamin, l'un des représentants de la communauté, comprend la colère des manifestants.
Un enfant a été tué hier soir. C'était un enfant handicapé. C'est ce qui nous met le plus en colère. Et le policier qui lui a tiré dessus est bien connu au sein de notre communauté. C'est pour ça que suite à cette affaire, vous voyez tout le monde se soulever.
Nathaniel Julius, 16 ans, est décédé à l'hôpital. Selon sa famille, il était sorti pour acheter des biscuits mercredi soir. La police lui aurait tiré dessus lors d'une patrouille alors qu'il était incapable de répondre aux questions posées. Odile ne veut pas que l'affaire reste impunie.
Je suis choquée et apparemment ce ne serait pas la première fois que la police n'est pas poursuivie après la mort d'un innocent. Normalement, on doit avoir peur des gangsters, mais maintenant, on doit avoir peur de ceux qui sont censés nous protéger. Alors comment on fait ? On demande simplement justice.
Pour Kyle, il est important que sa communauté métisse soit aussi reconnue comme victime des violences policières qui touchent le pays.
Nous, les quartiers métis, nous sommes délaissés. S'ils peuvent faire ça à ce jeune homme, qu'est-ce qu'ils vont nous faire à nous ? Ils auront le droit de nous tirer dessus comme ça ? Non. Il faut qu'on mette un terme à tout ça aujourd'hui.
Les autorités appellent les habitants à laisser l'enquête de Lipid, la police des polices sud-africaines, suivre son cours.
C'était Claire Bargelès, notre correspondante en Afrique du Sud. Jusqu'où ira l'escalade entre la Turquie et la Grèce en Méditerranée orientale ? Hier, Ankara a annoncé la poursuite de ses recherches gazières dans la région et des exercices de tir au nord de Chypre. C'est un nouvel épisode dans la crise qui a débuté il y a plus de 2 semaines maintenant. La France a déjà apporté son soutien sans ambiguïté à la Grèce, mais l'Allemagne refuse de prendre parti. C'est en fait toute l'Union européenne qui est embarquée dans cette affaire et c'est bien ce qu'espérait le président turc Recep Tayyip Erdogan. Nous en parlions hier soir dans le journal de 22h de France Culture avec notre invitée Dorothée Schmidt. Elle est responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.
Ankara veut démontrer son statut de puissance en Méditerranée orientale. Montrer qu'elle a voix au chapitre sur le partage des ressources gazières qui ont été découvertes dans la région. Manifestement, dans des moments de faiblesse de l'Union européenne, c'est une manière assez efficace de se faire valoir que de pousser sur le plan militaire dans une région dont on sait qu'elle est une poudrière pour toutes sortes de raisons, qu'elle est déjà très conflictuelle, qu'elle est travaillée par les flots de réfugiés venant de Syrie. Les Turcs, très clairement, comptent sur une forme de désorganisation européenne.
Ça veut dire que le président turc Erdogan se sent en position de force vis-à-vis des Occidentaux ?
Le président turc se sent en position de force relative à partir du moment où il arrive à semer la zizanie dans l'Union européenne. Il y a notamment cette impression que la France est partie bille en tête pour affronter la Turquie, un peu comme ça s'est passé sur la question libyenne il y a quelques semaines. Mais que finalement, elle n'a pas forcément le soutien absolument sans condition de tous ses partenaires. Et de ce point de vue-là, la présidence allemande de l'Union européenne a plutôt pris le parti de la diplomatie pour essayer d'éviter précisément une escalade militaire. Mais je pense pas que les Turcs souhaitent un affrontement. Je crois que simplement, ils chauffent la région à son maximum pour essayer de se faire entendre.
C'était Dorothée Schmidt de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, interrogée par Stanislas Vazak. Toujours sur la
Turquie. Sachez que ce soir, entre 17 et 18 heures, le grand reportage de la rédaction sera consacré à la Turquie et notamment à Sainte-Sophie, instrument de l'islamo-nationalisme. Un grand reportage signé Benjamin Illy, retrouvé donc à partir de 17 heures. Les averses vont traverser la France métropolitaine ce vendredi, du sud-ouest jusqu'aux frontières allemandes, des pluies parfois orageuses. Ce ciel chargé laissera place toutefois à quelques belles éclaircies en fin de journée. Ce matin, comptez 15 degrés à Brest, 16 à Lille et Paris, 18 degrés à Besançon, 19 à Paris, 25 à Marseille.